Rebonjour à toutes et tous. Pour ceux qui n'étaient pas connectés, merci à Madame Ouvrard pour cette présentation et cet accueil. Merci à toute l'équipe pour ce fabuleux travail technique. Alors, je reste toujours prudent parce qu'en règle générale, quand on avance ce genre d'argument, après, voilà, on paye un peu le prix. Mais enfin, merci pour cette belle organisation et j'avoue à titre personnel que je me suis régalé ce matin, vraiment. Je vais essayer d'être à la hauteur, de régaler à mon tour. Donc, on verra. Vous serez seul juge et je m'en remettrai naturellement à vos délibérations. Alors, j'ai envie de repartir là d'une question qui a été posée tout à l'heure à Hervé Lecronier, alors d'Isabelle Duchâtel, qui a posé une bonne question, en tout cas. Alors, elles étaient toutes bonnes, mais celle-ci était d'autant plus bonne qu'elle est en connexion avec mes travaux. Mais que garderons-nous de cette expérience? Et surtout, disait Isabelle tout à l'heure, Duchâtel, que garderons-nous de positif? Eh bien, c'est exactement la question que je me suis posée à l'entame de ce travail. Et la présentation que je vais vous faire est donc le résultat d'une recherche menée sur le temps du confinement, donc la première période de confinement, hein, quand nous avons tous découvert ce que c'est qu'un confinement globalement. Et j'avoue avoir été un petit peu interrogé, pour pas dire un petit peu agacé aussi, d'un certain nombre de propos, notamment politiques, où on présentait la continuité pédagogique sous l'angle de la prescription, et comme si finalement il suffisait de prescrire selon un modèle qui est celui, et on l'a dit, M. Bonnery l'a dit ce matin, qui est celui de l'élève ici, de l'étudiant idéal. Ça m'a un petit peu interrogé. Je me suis dit, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher le point de vue des étudiants. Parce qu'au fond, c'est bien les étudiants, ce qui nous concerne, qui ont été les plus touchés, hein, et de plein fouet par cette crise, puisque dès l'origine, nous avons été mis en situation de confinement avec un postulat, c'est que l'étudiant, il est autonome, il sait se connecter à Internet, plus que d'utiliser Internet, il sait en faire usage, et donc le problème est résolu, on s'en occupe plus. Donc, ça a été mon questionnement de départ. Et puis, une spécificité de mon travail, c'est que je ne me suis pas attaché, je m'en excuse, à la question du mal-être des étudiants, également du mal-être des enseignants. Alors, c'est un choix, c'est-à-dire qu'il me semble que le mal-être étudiant, il est réel, hein, un mal-être social, un mal-être qui a des origines économiques, un mal-être qui a des origines plurielles, hein, on le sait, des situations sont dramatiques, mal-être des enseignants aussi, hein, à l'université. Mais j'ai décidé de ne pas m'attacher à cette question du mal-être, considérant que c'était suffisamment documenté, à la fois par les médias et peut-être aussi par les chercheurs. Et qu'en plus, la question du mal-être touchait aux contraintes, et j'avais envie de mettre en avant non pas les contraintes, mais les initiatives prises par des étudiants dans la contrainte. Et je pense que le fait de mettre en avant les initiatives prises dans les contraintes, c'est aussi un moyen de sortir de cette crise la tête haute. C'est-à-dire qu'il me semble que ce qui est dangereux dans la crise que nous vivons, c'est que nous n'avons pas de distance avec ce que nous vivons, hein. Et au-delà des situations, encore une fois, hein, sociales, économiques, psychologiques, et qui sont réelles et qui réellement posent des problèmes, bah, la mise à distance, c'est sans doute ce qui nous préserve de difficultés qui pourraient s'ancrer dans la durée. Donc, mon travail visait à enquêter sur ces effets, selon un triple positionnement. Alors, bien sûr, qui est celui d'un chercheur, hein, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, mais je vais emprunter de temps à autre le point de vue, un changement de point de vue, adopter le point de vue des enseignants, hein, et que je suis aussi par ailleurs, et adopter le point de vue d'étudiants. Étudiants que je suis aussi par ailleurs et que je reste. Donc, pour le point de vue étudiant, alors là, un petit test, hein, comme je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont connectés, je me suis dit, tiens, je vais essayer quelque chose, je vais expérimenter quelque chose, bon, on verra si c'est heureux. En tout cas, j'avais envie de mettre en avant l'aspect méthodologique de ce travail de recherche et de mettre en abîme finalement le contenu des résultats de la recherche, mais aussi la manière dont j'ai construit cette méthode, puisque vous êtes beaucoup à être actuellement, notamment les M2, à être dans un travail de recherche. Vous êtes peut-être un peu dans le creux de la vague d'ailleurs, hein, une période un peu difficile, là. On a à peu près fini le cadre théorique, on est en train de recueillir les données. Donc j'avais envie de vous donner accès à la cuisine, hein, comme on dit, de la recherche. Je vais adopter un point de vue naturellement scientifique, hein, et démontrer comment mon ancrage théorique permet d'accéder à de nouveaux savoirs avec la question qu'Isabelle avait mis en avant tout à l'heure, hein, qu'avons-nous appris de l'expérience des étudiants? Et puis un point de vue aussi professionnel, de formateur. Au fond, comment cette crise interroge nos pratiques? À travers la découverte du point de vue des étudiants, au fond, je vous invite, et j'étais invité, à réinterroger mon point de vue de formateur, et cette découverte du point de vue des étudiants m'a fait redécouvrir mon point de vue, voire me l'a fait découvrir. Alors il y a une limite à ça, bien sûr, deux limites à mon étude. C'est que la première pourrait laisser penser, comme je vais chercher les initiatives prises dans les contraintes, que tout va bien. Donc encore une fois, j'insiste, j'ai bien conscience que tout ne va pas bien et que les choses vont plutôt mal hein, pour les étudiants, les enseignants, mais ce sera un effet de présentation, je m'en excuse par avance. Et puis deuxième limite, dans mon travail, l'idée, ce sera peut-être de, du moins pour les auditrices auditeurs, de se dire, ben, tiens, je vais vérifier si ce qu'il dit, si c'est vrai. Hein. Alors, je rappelle que j'ai cherché avec mon étude, qui est une étude qualitative, à accéder à une réalité, hein, qui est celle des étudiants que j'ai interrogés, et j'ai cherché à marquer des tendances. Et c'est ces tendances qui font résultat et qui font sens normalement dans le travail réalisé. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de manière plus précise, je voudrais présenter un triple positionnement, hein, ou plutôt un triple constat. D'abord, le premier constat, et Hervé Le Crouzet l'a dit tout à l'heure, il parlait de chicanerie, hein, si j'ai bien écouté, c'est qu'on vient de découvrir que l'université, tout comme l'école, c'était aussi un lieu de vie. Ça paraît extrêmement secondaire et pourtant, vous avez vu le titre, on va parler de l'expérience, cette question du lieu de vie, elle est essentielle. Alors, je rappelle d'ailleurs que la décision de fermer les écoles en France, hein, c'est un choix qui a été fait, un choix politique, mais dans d'autres pays, les choix ont été différents sur cette période. Hein. En Finlande, par exemple, la plupart des écoles ont été fermées, mais on a maintenu la cantine. Hein. Aujourd'hui, ça c'est en discussion. En Roumanie, il n'y a plus d'école depuis le mois de mars dernier. Et puis au Japon, encore plus remarquable par sa singularité, les fermetures des écoles ont été accompagnées par une mesure qui est étonnante, c'est l'ouverture des cours de récréation pour que les élèves puissent soulager leur stress. Donc voilà un premier constat en tout cas d'une redécouverte que l'université est un lieu de vie. Un deuxième constat qui est aussi à l'origine de mon résultat, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par la prescription. Donc, encore une fois, la prescription ou le discours politique nous a fait croire qu'il suffirait de prescrire pour que le vivant humain, nous, on s'attache à la tâche. Je voudrais ici faire le parallèle entre l'approche que j'ai notamment de la norme, puisqu'on va parler de la norme, je vais faire un parallèle avec la compétence. Et ça, dans l'institution éducation nationale, Dieu sait qu'on parle de la compétence, mais de quoi parle-t-on vraiment ? Et là, je voudrais faire un parallèle, puisqu'on est toujours tenté de penser les pratiques d'enseignants, les pratiques de professeurs documentalistes, les pratiques de CPE, de penser sous l'angle de la compétence. Alors, bien sûr, c'est un aspect fondamental, mais en même temps, quand on priorise le point de vue sur la compétence, on met dans l'ombre celles et ceux en charge de les mettre en œuvre. Alors que notre objectif, en tout cas en tant que formateur et aussi en tant qu'étudiant, consiste plutôt à rejoindre la compétence. Et ça change tout, même si la formulation peut avoir l'air légère. C'est-à-dire que la compétence, elle ne doit pas apparaître comme un fait, mais plutôt comme un débat. La compétence, elle ne s'impose pas en extériorité, elle passe par une évaluation croisée entre ce qu'il faut faire et ce que ça me coûte de faire. C'est exactement ce que je propose de faire dans mon travail, c'est-à-dire que je ne vais pas analyser la continuité pédagogique ou le confinement pédagogique, ou peu importe comment on va l'appeler, sous l'angle de ce qu'il faut faire, mais plutôt de l'angle de ce que ça me coûte de faire. Et pas tout à fait la même chose. Et puis, troisième constat, et ensuite je vais démarrer vraiment la présentation, même si je suis déjà de plein point, si je suis déjà largement, excusez-moi, c'est mettre l'accent sur l'importance du feedback. Encore une fois, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on peut ouvrir sur les médias, sur la crise. On est face à un problème majeur. Bien sûr, la crise fait problème, mais c'est surtout l'exploitation de la crise qui, de mon point de vue, fait problème ou fait doublement problème. C'est-à-dire que dans les médias, on parle de la crise et sans aucune distance. Hein, les scientifiques qui parlent, le débat scientifique qui existe pour toutes les questions, qui traditionnellement échappe au grand public, là, il est mis à la lecture, à la compréhension de tout le monde, mais sans aucune distance critique. Ce qui est si bien que nous prenons de plein fouet des éléments qui sont décontextualisés et qui peuvent nous apparaître comme étant violents, principalement pour cet aspect-là. Je pense que ce qui est important, et c'est un des effets de ma recherche, c'est de mettre en avant l'importance du feedback. Au fond, je crois, et l'étude va le montrer, nous avons appris énormément de choses sur cette étude, sur cette période, à travers cette situation-là, mais nous n'en savons pas grand-chose. Et là, je me réfère au concept de réfléchissement, qui est celui de Piaget, qui traduit bien cette idée de laisser revenir à l'esprit des informations perdues, hein, des informations non conscientes, et pourtant qu'on a vécues, hein, et qui ont d'ailleurs contribué au résultat. On est arrivé. Donc, ce que j'ai perçu fugacement, hein, ce qui m'a fait comprendre qu'un certain nombre de choses et qui m'a fait agir, m'a fait construire des stratégies, parfois par intuition, eh bien, tout ce qui est construit, tous ces ingrédients-là, on les perd précisément parce qu'on ne fait pas cet effort de les rechercher et de les remettre à la conscience. Et donc, je pense qu'il est important sur cette période d'avoir une entrée qui n'est pas une entrée par le moins, comme j'ai envie de le dire, c'est-à-dire par le « qu'est-ce qui ne va pas ?», mais plutôt une entrée par le « plus, qu'est-ce que j'ai appris ?». Mais retrouver ces informations nécessite un travail, ce n'est pas quelque chose qui peut être spontané. Voilà. Donc, si, alors j'ai déjà largement démarré, mais si je rentre quelque peu dans mon diaporama, voici ma question de recherche. Et donc là, je m'adresse aux étudiants. Elle est là. En quoi la rupture produite par la transformation brutale d'un environnement de formation et intégralement tournée vers le numérique fait expérience pour les apprenants? Alors, bien sûr, c'est une réalité pour tout le monde. On parle de continuité, en réalité, il faudrait parler de discontinuité. Ça, je crois que c'est absolument clair que là, il y a un abus de langage qui pourrait laisser penser qu'il suffirait de dire qu'il y a continuité pour qu'il y ait réellement continuité. Et ensuite, il y a une erreur fondamentale dans la formulation et qui a fortement sens. On n'aurait jamais dû parler de continuité pédagogique, mais de continuité des apprentissages, je crois. Et c'est bien là le problème, voire même le drame, c'est quand on parle de continuité pédagogique, on se situe du côté du prescripteur, on se situe du côté de l'enseignant qui administre, et le terme est délibérément polémique, une connaissance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'apprentissage. Voilà un autre paradigme qui paraît évident, et pourtant qui est loin d'être évident. Donc, voici ma question, et donc mon plan, il arrive, qui embrasse ce que les étudiants vous découvrez à peu près tous, à peu près, hein, dans vos travaux de recherche, c'est le plan d'une recherche. J'ai essayé, c'est la cuisine que je vais essayer de mettre en avant. Et pour circonscrire mon travail, et pour réaliser une recherche que j'ai faite sur le temps du premier confinement, donc, vous voyez, moi-même formateur, responsable de formation, il a fallu que je fasse preuve d'une extrême sévérité méthodologique pour parvenir à faire ma recherche sur ce temps de la crise, puisque je documente la première période où les étudiants sont restés à la maison, parce qu'il me semblait que la rupture, elle était là, et c'est là qu'il fallait chercher des informations. Donc, parce que je n'avais pas beaucoup de temps, la méthode de recherche nous aide, je suis reparti de ma question de recherche, et pour construire la revue de littérature, qui est donc ce qui documente la recherche, j'ai pris deux mots-clés qui sont importants dans ma recherche. J'ai pris tout d'abord celui d'environnement de formation, hein, que vous avez là, environnement de formation, donc qui fait écho à la notion de numérique. Et le numérique, c'est le premier mot-clé de ma recherche, ou un des deux mots-clés. Et puis la notion de faire expérience qui renvoie aux apprenants, c'est le deuxième mot-clé. Et donc ma revue de littérature, encore une fois, j'insiste, pour gagner du temps, eh bien, je l'ai construite autour de ces deux notions et je vais montrer ce que ça donne en commençant par le deuxième, c'est la question de l'expérience. Alors, cette notion d'expérience, il faut qu'on s'entende, parce que de quoi parle-t-on ? Expérience, c'est un mot valise, tout le monde en parle, personne ne sait ce qu'on met dedans, et quand on commence à chercher ce qu'il y a dedans, on a l'impression qu'on peut tout y mettre. Eh bien, voilà mon positionnement, qui est un positionnement épistémologique. C'est tout d'abord la notion d'expérience, il y a une articulation avec la connaissance. Il y a une distinction, en tout cas, entre avoir de l'expérience et faire l'expérience d'eux. La première approche renvoie une expérience qui est constituée, qui est actée. Elle permet d'ailleurs de revendiquer une expertise, de revendiquer une autorité. Celle-ci nous intéresse moins. C'est celle qu'on va trouver d'ailleurs dans certaines salles des profs, quand on est jeune stagiaire ou jeune prof, on arrive en salle des profs et puis vous allez rencontrer le prof qui a fait toute sa carrière, une carrière brillante, qui vous dit « écoute, tout ce que tu as appris à l'INSPE, oublie-le, parce que moi je vais te dire comment ça marche ». Et donc là, typiquement, on est sur un positionnement qui consiste à dire « voilà, j'ai de l'expérience, ça fait autorité », sauf que le problème, c'est que cette forme cette manière d'aborder l'expérience, elle est écrasante, elle est fermente. Moi, ce que je propose, c'est l'entrée par la notion de « faire l'expérience de », qui est celle de Pastret, qui traduit une rencontre avec de l'imprévisible, la crise, qui introduit une contrainte dans un processus qui lui-même était déjà routinisé. C'est exactement ce qui s'est passé sur la crise et qui a produit de l'apprentissage-développement. Donc, la notion de faire l'expérience me permet de cheminer. Et donc, ce que je vais chercher, c'est qu'est-ce qui a fait expérience, autrement dit, qu'est-ce que j'ai appris. Et comme ce n'est pas suffisant, il faut que j'avance. Il y a trois caractéristiques de l'expérience. L'épreuve, la quête et l'œuvre. L'épreuve, ça traduit la rupture. L'épreuve, d'un point de vue scientifique, je mets à chaque fois les références, marque un arrêt, un changement dans un processus et la nécessité d'y faire face. Donc, l'épreuve, qu'est-ce qui fait rupture? La quête, elle renvoie, alors métaphoriquement, on est d'accord, à la volonté pour le sujet, pour nous, de donner du sens à ce qu'on a vécu. Très bien, la question du sens, elle est importante. Et puis, troisième aspect, la question du sens qui permet de donner de l'intelligibilité. C'est exactement l'objet de ma recherche et peut-être de la recherche en général. Et puis ensuite, il y a l'œuvre qui rend compte d'une transformation du sujet à travers ce vécu. Transformation, une restructuration des relents, des modes de pensée et d'agir. L'épreuve, la quête et l'œuvre, ce sont trois aspects sur lesquels je vais construire mon questionnaire, celui même que je vais administrer avec mes étudiants. Et ensuite, l'expérience, je l'aborde sous l'angle du milieu de vie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de milieu de vie? Et là, on est sur un positionnement qui renvoie au cadre théorique. D'accord, c'est que tout sujet, on oriente tous nos choix par rapport à des valeurs. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui fait valeur pour le sujet? Comment on recentre l'activité sur ce qui est prioritaire pour nous? Et ce qui fait valeur, c'est ce que je vais chercher chez les étudiants pour cette crise. Et puis, il y a une articulation entre l'expérience et l'identité. Et là, on avance. L'expérience et l'identité, Ricoeur distingue l'ipsée et l'idem. La première se réfère à des faits qui laissent des traces. L'ipsée, c'est les traces que laisse l'expérience dans notre vie. L'idem, c'est en quoi ça contribue à la construction identitaire. J'avance encore et j'arrive sur l'expérience et le développement. Et là encore, je reste dans mon cadre. Si on agrège tout cela, un apprentissage, la question que je vais me poser, c'est en quoi un apprentissage peut supporter un processus de développement. D'accord ? L'importance, c'est de chercher qu'est-ce qui fait développement dans ce que j'ai appris. Et plus globalement, on pourrait se poser la question, dans nos enseignements, là je m'adresse aux formateurs, finalement dans nos enseignements, à quel moment arrivons-nous à produire des moments de développement personnel chez l'élève ? Deuxième mot-clé, c'est le numérique. Je vais aller assez vite là-dessus. Je me réfère à Michel Serres, qui met en avant que le numérique transforme les espaces. On passe d'espaces de concentration, un lieu, une fonction, à des espaces de distribution. Le même espace, je peux accéder de là où je suis à plein d'espaces en même temps. Le numérique change le rapport au temps. Inutile d'aller bien plus en avant par rapport à ça. On peut être partout en même temps. Et il y a une accélération, une vitesse. Et ça réinterroge le rapport au temps. Et puis, les savoirs. Tout à l'heure, ça a été dit, je ne sais plus quel intervenant disait, que les savoirs, quand on les trouve sur Internet, ce ne sont pas tant des savoirs, encore moins des connaissances, si je prends cette distinction, même si moi, j'ai une posture inverse entre savoir et connaissance, mais ça, c'est une posture épistémologique. Pour autant, les savoirs, c'est de l'information. La question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait après. Voilà, ma revue de littérature, elle est terminée. Je sais à peu près de quoi je parle. Maintenant, il me faut les lunettes. Avec quelles lunettes je vais regarder ce qui se passe? Je vais les regarder avec la démarche ergologique. Alors, la démarche ergologique, théorie de l'activité, un courant relativement jeune, où l'idée, c'est d'approcher le travail en micro. Je considère l'activité de l'étudiant comme un travail au sens anthropologique du terme. Voilà. Donc, l'idée, c'est de dire, ce qui m'importe dans mon étude, c'est pas tant ce que les étudiants ils font, même si je vais être très attentif à ça, mais c'est surtout les arrière-plans qu'ils déclarent et qui ne sont pas visibles. Les arrière-plans, c'est quelles sont les raisons d'agir, quels sont les débats normes, quelles sont les valeurs qui sont en débat. En fait, ce qui va m'intéresser, c'est tout ce qu'on ne voit pas de l'action. Mais l'action m'intéresse malgré tout. Donc, vous voyez que pour moi, le rapport de proportion est là. Ce qui va m'intéresser, c'est quoi? C'est l'activité empêchée, ce que l'étudiant aurait voulu faire, ce qu'il n'a pas pu faire. C'est l'activité déplacée, ce qu'il a... Il a fait ça au lieu d'autre chose. Et qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça plutôt qu'autre chose? C'est l'activité au sens très général du terme. Donc, c'est aussi ce qui n'est pas fait ce que l'étudiant aurait voulu faire, et ce qu'il aurait rêvé de faire, et ce qu'il n'a pas pu faire. Donc, on est là-dedans, et le cadre théorique, donc, si ça avait été le cadre théorique plutôt dans le champ de la psychologie, j'aurais peut-être cherché la question du mal-être. Si ça avait été le cadre théorique un peu plus sociologique, j'aurais plutôt cherché à savoir les effets de la crise sur les uns et les autres, ou les causes plutôt de la crise sur les uns et les autres. Et moi, je m'intéresse aux effets, et voilà mon cadre théorique. Et voilà ma méthode. Alors, pour la méthode, 8 étudiantes en deuxième année de licence. Alors, qui sont donc des étudiants en sciences de l'éducation, dans un dispositif de professionnalisation. Alors, vous verrez que cette particularité, elle a sens, notamment, vous verrez dans la conclusion, ce sont des étudiants qui ont un projet de professionnalisation. Je suis allé les voir et nous avons fait 2 focus groups. Alors, qu'est-ce que c'est les focus groups? Donc, c'est des entretiens collectifs. Le premier qui a comme objectif de faire émerger les représentations, les croyances, des points de vue qui sont des points de vue bruts, de les faire discuter entre étudiants, d'aller commencer à chercher un petit peu des points de concordance, de discordance. Et ensuite, j'ai fait un entretien par étudiant et j'ai terminé à nouveau par un focus group. Donc là, dans ma recherche, je décris ce que c'est un focus group et je montre la pertinence qu'il y a à faire un focus group avec le cadre ergologique, puisque avec les focus group, ce que je vais chercher, c'est la réalité telle que perçue par les étudiants. Je ne cherche pas la réalité. D'abord, je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique sur la réalité, parce qu'on n'en sortirait jamais, ou du moins on n'en sortirait pas indemne, mais c'est vraiment le point de vue déclaré par les étudiants. Et à travers ça, je vais chercher ensuite quels sont les marqueurs. Le point faible, je crois, je prends un risque, mais le point faible, je pense, de beaucoup de recherches, c'est qu'on ne voit pas le passage entre les données recueillies et la partie des résultats. C'est bien qu'on ne sait pas trop, quand les résultats tombent, d'où ça vient. Donc, je crois que ça, c'est une faiblesse de travaux de recherche, je crois. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc, voilà comment j'ai fait pour passer de ce que les étudiants nous ont dit, donc les verbatim, à ce que j'apprends de ce qu'ils nous ont dit. Pour ça, je dois prendre une méthode. Ici, c'est la théorisation ancrée. Théorisation ancrée, qu'est-ce que c'est? C'est que quand je retranscris les entretiens et quand je les relis, je fais toujours le lien entre ce que je lis, donc les données de terrain, et ce qui ressort comme étant des points marquants, des points concordants, des points discordants, des points qui reviennent ou des points qui sont marquants. Et donc, pendant tout le long, la théorisation ancrée, cette idée de faire le va-et-vient entre des données de terrain et des niveaux de conceptualisation. Et c'est cohérent avec le cadre théorique puisque je cherche le point de vue, et c'est cohérent avec ma revue de littérature puisque je cherche ce qui fait expérience pour les étudiants. Donc voilà, par exemple, alors très brièvement, les participants, la première étape, un copier-coller de l'extrait qui me paraît qui est significatif parce qu'il est redondant, il revient. L'étape 2, je pars, donc l'étape 1, c'est l'étape brute, copier-coller. L'étape 2, je suis sur un premier niveau de conceptualisation. Tiens, entre l'étudiante qui dit « Ah, je suis beaucoup, beaucoup moins stressé quand il y a des examens sur table, il y a toujours des questions surprises, ça stresse, ça nous bloque. » Tiens, l'étape 2, premier niveau de conceptualisation, ce que je lis là, c'est que il y a moins de stress pour l'étudiant. Pareil pour l'extrait 2, je ne vais pas tous les faire, le travail à la maison, ça aide à mieux comprendre les cours. Niveau 2, cours qui sont plus compréhensibles. Vous voyez qu'il faut qu'on s'assure qu'on ne réinterprète pas entre le niveau 1 et le niveau 2. Et puis ensuite, le niveau 3, eh bien, je vais regrouper des ensembles thématiques. Et là, par exemple, ce que j'ai repéré dans l'étape 2, je peux faire un grand chapeau. Peut-être que je suis dans... je suis dans un thème qui invite à penser qu'on observe un rapport au savoir qui est réinterrogé. Voilà pour les aspects méthodologiques. Et puis, on en arrive au résultat. J'espère que je ne parle pas trop vite, d'ailleurs. Élise, ça va?
Oui, ça va très bien. Il te reste une dizaine de minutes.
Oui, je suis très bien. Pas de souci. Alors, allons-y sur les résultats et les discussions. Alors, j'ai juste mis, alors ça c'est juste pour la démonstration méthodologique, j'ai surligné ce que j'avais mis avant dans l'étape 1. C'est juste pour montrer l'usage, mais je vais pas aller plus loin. Alors voilà, qu'est-ce que j'observe? C'est quoi mes résultats? Qu'est-ce que j'ai appris en 10 minutes? C'est magnifique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai appris? C'est que l'abandon des évaluations sur table, donc au profit des dossiers, des questionnaires, impacte très fortement la qualité déclarée des apprentissages. Et les étudiantes l'expriment. je suis beaucoup moins stressé. Quand il y a des examens sur table, il y a toujours des questions surprises. Je suis stressé, ça nous bloque. Avec les productions à rendre, hein, puisque vous savez qu'il n'y avait plus de devoirs sur table, la tension diminue, un confort. Ça aide à mieux comprendre le cours. Ce constat va dans le sens des travaux de neurosciences qui démontrent que les émotions négatives inhibent le processus cognitif et que le couple émotion-cognition, il est fondamental dans l'acte d'apprendre. Voilà une information qui m'apparaît comme importante parce qu'en tant qu'enseignant, en tant que futur enseignant, en tant que futur conseiller principal d'éducation, futur professeur documentaliste, tenir ensemble l'émotion et savoir que cette émotion a un impact sur l'apprentissage est un élément fondamental. Et pour nous, enseignants, pensais que les étudiants allaient être en difficulté sur un certain nombre d'apprentissages, j'apprends que quand même, il y a une plus-value finalement à des évaluations qui ne sont pas sur table parce qu'on réduit la charge émotive. Si je continue un tout petit peu. Alors, je suis toujours sur rapport au savoir. Alors, un consensus apparaît autour de tâches qui sont beaucoup plus exigeantes qui demandent beaucoup plus d'efforts. Et moi, m'a contrarié dans la recherche. Parce que pour moi, en tant qu'enseignant, je me disais, les étudiants, ils vont s'éclater, c'est beaucoup plus facile, ils sont seuls à la maison, ils ont Internet, franchement, et puis on va parler d'évaluation après. Donc, beaucoup plus difficile. Piel qui souligne que quand il fallait apprendre et recracher le cours par cœur, c'était facile. Ça, on nous a appris à le faire depuis tout petit. C'était un automatisme. Maintenant, on est obligé d'analyser, de faire de la réflexion. Et Chloé de rajouter, là, on est dans la recherche. Il faut qu'on comprenne, qu'on aille plus loin. Ça met plus de temps, c'est quand même plus compliqué. Il faut vraiment s'accrocher, il faut se concentrer. Que documente ce résultat? C'est que le sentiment d'efficacité personnelle, qui est donc la croyance en ses propres capacités ou succès, propres chances de réussite, est très sollicité ici, et ce sont des ressources qui sont inégalement partagées. Et donc là, on voit déjà des effets sur les apprentissages avec j'ose le mot compétence, inégalement partagée, qui va laisser sur la route un certain nombre d'étudiants qui n'arriveront pas à avoir ce sentiment-là, pour X raisons. Ensuite, toujours sur ce champ, poursuivons, toujours sur ce domaine-là, la capacité attentionnelle est très fortement sollicitée. En cours, un prof met l'accent sur ce qu'il faut retenir. Là, tout se vaut. Et c'est bien là qu'on prend conscience, et en tant qu'enseignant, pour moi, ça a été une prise de conscience, que la part de communication non-verbale dans la compréhension des cours du point de vue de l'étudiant est très fortement corrélée aux chances d'apprentissage. Dit autrement, cette communication non-verbale qui disparaît, sauf quand il y a de la visio, encore que, finalement, quand elle est présente, elle est facilitante. Quand elle est absente, elle pose problème. Et donc ici, on interroge la capacité attentionnelle qui est fortement sollicitée. Et comprendre les intentions de l'enseignant, voilà une difficulté que les étudiants ont ressentie. Alors le fait de chercher des informations, le processus d'apprentissage à distance, va produire néanmoins des satisfactions. Le fait de chercher des informations par soi-même, ça permet de mieux les assimiler. Ces modalités de formation favorisent les apprentissages en profondeur. Donc, on pourrait penser l'inverse, mais malgré tout, les étudiants, en étant obligés de faire attention à éviter le copier-coller, ont été obligés de reformuler, de retravailler, ce que j'appelle une forme de braconnage pédagogique, parce qu'ils ont été obligés de, malgré tout, mettre avec leurs propres mots un contenu qu'ils avaient certes trouvé sur Internet. Et là, si je prends l'approche de Bonnery, on passe de savoir aux connaissances. Bon, pour moi, ce sera l'inverse, mais peu importe. Et donc, on voit bien ici qu'on produit des apprentissages en profondeur de ce fait-là. Alors, un rapport au savoir qui est plus proche des étudiants. Ce point, en tant qu'enseignant, m'a beaucoup marqué. L'ensemble des résultats va dans ce sens et va dans le sens des travaux d'Anne Barrère, qui décrit une appétence des étudiants à être à fond dedans, comme reflet d'une quête d'intensité, favoriser ce que les étudiants attendent, c'est d'apprendre en passant par un oubli de soi, un oubli du temps, dans une activité qui enveloppe la tâche. Elle doit capter l'attention tout entière, elle doit mobiliser l'effort et la concentration pour déboucher vraiment sur une satisfaction du travail accompli. Donc le recours au numérique, s'il n'est pas en soi source de motivation, on est tous d'accord là-dessus, c'est plutôt la nature des activités qui a été reconnue comme un marqueur complètement en phase avec la sociabilité juvénile. Ces résultats, en tout cas, peuvent constituer une perspective transformatrice de l'acte d'enseigner à l'université, hein, par les évolutions qu'elles induisent. Et ces résultats nous donnent à réfléchir, nous invitent à réfléchir sur le rythme, l'intensité, la diversité des tâches avec lesquelles on doit aborder nos enseignements. Alors, pour tout doucement conclure, je repère dans ces résultats ce que Maus défend, alors sociologue, sur le don et le contre-don. Le don et le contre-don qui apparaît comme un marqueur d'engagement dans la formation. Alors, c'est quoi le don et le contre-don ? C'est une forme de contrat social qui s'établit implicitement entre l'enseignant qui est super engagé et l'étudiant à qui on demande d'être super engagé. Le rapport entre étudiant et enseignant est réinterrogé, avec un effet qui est de désacraliser la figure d'autorité de l'enseignant. Ce que dira Maé, il y avait un cadre avant qui justifiait les statuts. Désormais, le cadre tombe, et le statut aussi. L'étudiant sort de son rôle, mais le prof aussi. Apparaît des effets de proximité. On n'est plus anonyme comme dans l'amphi, mais le prof aussi n'est plus anonyme. Une sensibilité à la qualité du lien apparaît, qui favorise l'engagement dans la formation et qui soutient les apprentissages. Ce que dira Else, ce côté prise de nouvelles dans les mails. Vous savez, je m'adresse aux enseignants, on a été beaucoup à écrire des petits mots aux étudiants, j'espère que tout va bien, et ensuite on passait aux choses sérieuses, j'ai envie de dire. Ça nous paraissait peut-être anodin. Du point de vue des étudiants, c'était un marqueur fort d'un engagement de l'enseignant à s'intéresser à ce qui quitte ou qui est en dehors de l'apprentissage, c'est cette dimension de ressentiment. Donc ce côté prise de nouvelles dans les mails permet de garder le lien, on n'est plus uniquement étudiant. Il y a ce désir que tout se passe bien. Ce côté affectif était plus présent. L'étudiante, elle, dira, je ne sentais pas ce lien avant, je venais juste faire le boulot. Là, on est vraiment une communauté. Puis il y a une notion de contrat qui apparaît. Ces 8 étudiantes, je précise, ressentent une vraie sincérité qui donne envie d'aimer la matière. Les enseignants se donnent du mal, ils rebossent le cours et ça, franchement, ça booste les étudiants. D'autres enseignants, au contraire, sont dans une simple logique de l'offre. Pour reprendre des propos d'Albero, ils donnent une liste de boulot à faire pour nous occuper. Ça provoque du rejet. Franchement, on lâche, on n'a pas envie. Ça provoque un échec. Donc, on voit bien que l'engagement de l'enseignant correspond à l'engagement des étudiants. Et si ce n'était pas perceptible du point de vue des enseignants, c'est perçu du point de vue des étudiants. Il y a des routines qui changent. Je vais aller vite parce que le temps s'écoule. Il y a des routines qui changent. Ce qu'on voit fortement, c'est des routines qui ponctuaient les journées. À des routines ponctuant les journées de cours, les étudiants passent à de nouveaux rituels à façonner. Les étudiants étaient obligés de façonner de nouveaux rituels. L'espace domestique, la chambre, le salon, change d'ambiance. Sa fonction, qui était initialement dévolue à la détente et au loisir, se transforme pour devenir un lieu de travail, loin de l'influence des enseignants. Donc, à l'image d'Aise, qui nous dit, se disant incapable de travailler dans sa chambre, tant les distracteurs y sont nombreux. Pour ça, elle va privatiser une part de salon, du salon, et si les séries partent du salon, elle va se reconstruire de nouveaux espaces de travail, elle va changer régulièrement d'espace, et on comprend, et c'est un des ateliers qu'on va travailler avec Élise Ouvrard cet après-midi, que l'espace, le lieu, impacte fortement la qualité des apprentissages. Alors, ce qui apparaît, c'est des to-do lists qui sont privilégiés à des créneaux fixes, plus gratifiants, c'est chouette de rayer les tâches réalisées, mais de nouvelles potentialités aussi. Et c'est là où le feedback il est important. C'est qu'on a appris plein de choses qu'on n'a pas vues, parce qu'on ne s'est pas donné le temps, pour plein de raisons. Else qui nous dit, je détestais travailler le matin, et maintenant, je me surprends à adorer me mettre au boulot tôt le matin. Donc, ce n'est pas anodin, c'est de nouvelles potentialités apparaissent. Et quand on les identifie, ça devient des compétences ouvrantes, mais quand on ne les identifie pas, ça se perd dans les méandres du quotidien. Et puis, dernière chose, les relations apprenantes. Très intéressant, c'est peut-être pas de mon point de vue très intéressant, on retrouve l'abandon du tutorat, des espaces d'échange institutionnalisés. La plateforme Moodle que nous utilisons à Strasbourg pour surmonter les difficultés est abandonnée. Pourquoi ? Parce que les étudiants disent qu'on a l'impression d'y être moins libre, plus jugé aussi. Et d'autres aspects apparaissent, alors aussi en cohérence. L'usage de sites non formels qui permettent de concilier des échanges pour s'amuser, mais aussi pour travailler. Les étudiants vont hiérarchiser l'usage des plateformes et distinguer ce qui relève du récréatif et ce qui relève du formel. Donc, on repère là l'importance, en tout cas, du choix des plateformes et des liens qui se construisent à travers ces plateformes. Ce qui va se créer progressivement aussi, c'est ce que j'appelle une instrumentalisation des liens entre pairs, voire une professionnalisation. C'est-à-dire qu'on voit, alors c'est aussi un des drames du confinement, une privatisation des relations. Les étudiants qui disent, bon, avant je voyais plein de monde à l'amphi, dans les couloirs, on discutait. Là, maintenant, je sélectionne. Je ne prends plus que quelques collègues étudiants, et puis la relation, elle devient apprenante, c'est-à-dire qu'au fond, je me rends compte que bah, comme on a de moins en moins de vie sociale en commun, bah, on parle de plus en plus boulot, et donc ça refroidit la relation du point de vue social, alors ça l'enrichit du point de vue pédagogique, mais cet aspect-là me semble loin d'être anodin. Et d'ailleurs, c'est un des points peut-être importants et qui participe du mal-être étudiant, c'est qu'il y a de plus en plus de liens choisis entre pairs, P-A-I-R-S, et il y a moins en moins de rencontres. Hein. Et donc, ça, c'est un effet qui participe aussi du mal-être adolescent. Alors, je termine, j'espère que je suis dans les temps, Élise, j'avoue avoir un tout petit peu lâché le chrono, sur qu'est-ce qui s'est... Ouais, ça va ?
Il reste une minute.
Ah bah c'est parfait, c'est ma conclusion, elle est là. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on passe d'une attitude d'hétéronomie à l'expérience de l'autonomie. C'est-à-dire que, finalement, cette situation, par ces étudiantes-là, alors c'est aussi le mode de questionnement qui a fait que, hein, cette situation a été ressentie à cette époque, hein, j'insiste, à ce moment-là, a été ressentie positivement par les étudiantes qui étaient amenées à faire l'expérience de l'autonomie. Donc, à distance de leurs repères habituels, guidés par les enseignants et habituellement régulateurs, hein, malgré tout. Donc, j'ai repéré dans l'étude, où l'étude montre hein, ce processus d'autonomisation qui constitue d'ailleurs un fondement de l'auto-formation. Hein, je me réfère à Alberos, c'est un fondement de l'auto-formation. Donc, la situation les a exposés à la prise en charge d'elles-mêmes, de leurs responsabilités dans l'apprentissage et la mobilisation de leurs processus et compétences psycho-socio-cognitives. Bon, alors si on se réfère à un certain nombre d'auteurs, on peut souligner l'importance du lien entre motivation et action. Donc, on confirme que la fonction motrice de l'obligation d'agir de manière efficace renforce l'estime de soi et ses capacités de développement. Donc ces étudiantes ont ainsi éprouvé les différentes dimensions de l'autonomie à travers le champ d'application. Mais maintenant, soyons quand même clairs, c'est que le passage de l'hétéronomie à l'autonomie a été fortement marqué et soutenu par l'existence d'un projet. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que ces étudiantes étaient en projet professionnel, quoi, hein, dans un projet de professionnalisation, même s'il est moindre. Donc, leur engagement dans un dispositif de pré-professionnalisation était un dénominateur commun qui a fonctionné comme un catalyseur de mobilisation dans l'étage. Donc, le constat d'un développement personnel est observé, d'accord, et il montre qu'il y a des acquis. Par extension, néanmoins, et c'est là, c'est important de bien prendre compte de ce résultat-là, l'analyse peut éclairer un impact négatif sur les étudiants qui ne sont pas dans un projet professionnel stabilisé. Donc, pour moi, je postule, c'est ma dernière phrase, qu'il y a un accroissement des inégalités dont les effets pourraient émerger à retardement dans les poursuites d'études, même si ça apparaît aujourd'hui de plus en plus comme une évidence, mon étude a essayé d'apporter des preuves de cet aspect-là. Je vous remercie de votre écoute. Et pour ceux qui ont envie de lire l'article, parce qu'il y a un article, il est consultable en ligne gratuitement dans Recherche et Éducation. Voilà, merci de votre écoute. J'espère avoir tenu le temps, Élise.
Oui, merci. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour cette conférence qui va sur le plan, et là je vais revenir dans un premier temps uniquement sur la structuration. Probablement raisonner, comme tu as pu l'évoquer au tout début, hein, sur le parcours et la construction. Et là, je pense plus particulièrement aux étudiants qui sont en M1 ou en M2 hein, et qui s'inscrivent dans la dynamique de recherche. Alors, en termes de contenu, j'ai posé une question il y a à peu près, je ne sais pas, je dirais 5-6 minutes, peut-être un petit peu plus, qui interrogeait justement le point de vue sur l'évolution de la relation pédagogique pendant le confinement. Et j'ai donc demandé aux étudiants et aux étudiantes en particulier qui assistent à cette conférence s'ils partageaient ce point de vue. Et cela a visiblement suscité des échanges. Et en fait, les étudiants expriment surtout ici le fait que le positif sur lequel tu es principalement, tu as axé hein, visiblement ta conférence et qui est annoncée telle quelle dès l'introduction, paraît pour certains d'entre eux, on va dire, soit en décalage, soit, on va dire, éloigné des préoccupations et des sujets de discussion. Alors, je vais revenir sur une remarque, notamment d'une des étudiantes qui part d'une de tes diapositives sur laquelle tu précises « plus il y a de challenge, plus c'est motivant ». Et ce à quoi elle répond, pour ma part, c'est totalement l'inverse. Elle mentionne surtout les difficultés hein, qui émergent et sur le fait qu'elle se sent… totalement, on va dire, démotivée. Il n'y a déjà aucune motivation. Alors, si ce qu'on nous demande est difficile, moi, je n'essaie même plus, c'est trop dur et le sentiment de ras-le-bol est plus que présent. Alors, voilà, voilà, il me semble qu'il y a beaucoup de réactions qui vont dans ce sens et même si on va peut-être après revenir sur d'autres aspects, voilà, j'aimerais quand même relayer ces propos d'étudiante.
Oui, complètement. Alors, merci. Alors, j'ai malheureusement pas accès au chat, donc j'ai pas vu ce qui apparaît. Alors, je ne sais pas.
Ah oui, non, mais c'est normal. Hein,
c'est ok. Donc, c'est inutile de chercher.
Peut-être que tu peux arrêter alors, le partage d'écran.
D'accord. Ah oui, c'est ça. Alors, ok. Merci de ces retours. Alors, donc, si je comprends bien, ma présentation a suscité de l'émotion. Donc, il y a au moins, il y a ça de positif. Alors, d'abord. Je reviens sur un certain nombre de points. D'abord, et merci de le rappeler, hein, j'ai assumé dès le départ un positionnement, hein, c'est-à-dire que j'ai cherché des initiatives. Hein, et parce que les contraintes que vous évoquez, qui sont celles que vous mettez en avant, on les connaît, elles sont documentées, elles existent. Et donc, j'insiste encore une fois, hein, donc, mon propos ne consistait pas du tout à en faire l'impasse. Hein, donc, ça existe, on est tout à fait d'accord. Alors, donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est un des enjeux de la recherche. Alors, c'était une des limites. Hein, donc, vous pointez bien les limites que j'ai mises en avant. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, même si on tend vers la généralisation, pour autant, il est évident que l'expérience qui a été mise en avant et qui est celle qui a été documentée, elle ne prétend pas à la généralisation, mais elle prétend à marquer à marquer quelques traits, quelques tendances qu'il faut bien ici mettre en lien avec l'existence d'un projet fort. Et c'est bien l'aspect de la conclusion, c'est-à-dire que ce qu'on voit, hein, c'est que les étudiants qui sont tenus par un projet fort, c'est le projet fort qui les permet de tenir dans la diversité des tâches hein, et dans la diversité des attendus. Hein. Et je comprends pleinement que le ressenti d'étudiants, parce que quand on est en situation de, je vais dire, c'est un peu modélisant, mais pour gagner du temps en tout cas, les étudiants qui sont en situation de réussite vont naturellement, en temps normal, mieux vivre les différentes tâches universitaires. Le confinement a eu un effet loop extrêmement fort, c'est-à-dire qu'un étudiant qui a de toute façon une difficulté avec la disparité des tâches aura encore plus de mal en situation de confinement. Donc, le confinement a accentué des aspects qui étaient présents dans la vie, mais minorés par tout ce que j'ai pu évoquer, tout ce qu'on sait, par l'existence de liens sociaux, par l'existence de proximité avec les pairs, par la facilitation qu'on peut avoir à avoir un enseignant en face qui a une expression non-verbale qui participe de la compréhension, les feedbacks aussi hein, entre enseignants et étudiants. Donc, ce qui est ressenti comme étant quelque chose de... D'abord, c'est vrai parce que c'est ressenti. Bien évidemment, la recherche le montre, hein, c'est que le Covid va accentuer ça. Maintenant, d'un autre côté, et c'est les travaux d'Anne Barrère qui nous le montre aussi, c'est que ce que ça a mis en avant, en évidence, c'est que le rythme de l'enseignement que nous proposons, alors nous, là, je généralise pour aller vite, hein, mais en règle générale, il ne faut pas y voir comme ça une unicité des pratiques, mais le rythme qu'on propose probablement dans nos enseignements, en tout cas, il apparaît comme étant en décalage avec le rythme d'apprentissage des étudiants. C'est-à-dire un rythme très lent à la fac quand les étudiants viennent, hein, ce qu'ils ont dit dans l'étude, on vient à l'amphi, le micro ne marche pas, on s'installe, le prof il n'arrive pas à se connecter tout de suite, ça met du temps, on perd du temps à droite, à gauche. Parfois, on rentre d'une journée, on se dit « oh là là, je n'ai rien appris, je me suis ennuyé ». Donc, l'étude montre que l'intensité, hein, est un élément qui participe de la réussite des étudiants. Après, bien évidemment, j'ai conscience de ne pas, j'espère être clair dans mon propos, j'ai conscience de ne pas avoir cherché des marqueurs qui sont des marqueurs négatifs, mais plutôt montrer quels ont été les leviers qui ont permis à des étudiants, j'insiste, déjà motivés, de réussir encore mieux. Et donc là, on voit que la vitesse, l'intensité y participe.
Mais simplement sur la méthodologie de la recherche, les étudiants n'ont pas été sélectionnés.
Non, pas du tout. Les étudiants n'ont pas été sélectionnés. Ça a été un groupe d'étudiants qui s'est déclaré volontaire et qui sont engagés dans un projet de pré-professionnalisation.
D'accord. Donc, on aurait très bien pu imaginer que dans les résultats, il y a une disparité.
Oui, complètement. Complètement. D'accord. Complètement.
Parce qu'en fait, là, ce qui ressort du fil de discussion, hein, c'est surtout visiblement la temporalité, c'est-à-dire que la recherche que tu présentes aujourd'hui porte sur le premier confinement, mais intervient pendant, on va dire, une période au cours de laquelle les universités donc, ne permettent pas aux étudiants de revenir en présentiel. Hein. Héloïse précise, hein, ce qui se joue aussi, je pense, c'est qu'au premier confinement, l'année était bien commencée, on voyait le bout du tunnel. Et arrêtant à quelques mois de la fin de l'année, je pense que ce deuxième confinement n'est pas fini pour nous et que nous n'en voyons pas le bout, hein, à la différence du premier où il y avait un sentiment de finitude, hein, car cela fait 4 mois que ça dure et qu'on n'a pas vraiment d'information quant à la fin de cette situation pesante pour certains d'entre nous. Hein. Donc, il y a probablement aussi un effet aussi distinct. Hein,
Alors, il y a quelque chose qui est très, très fort et complètement avec ça, c'est que ce que les étudiants ont fortement documenté, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que si je refais la même étude aujourd'hui avec les mêmes étudiants, on n'aura plus la même réalité. Hein. J'insiste bien, c'est la réalité sur le premier confinement. Mais ça dit quelque chose, on apprend quelque chose. De manière très précise, ce qui est très différent entre aujourd'hui et le premier confinement, c'est le premier confinement, on était tous dans la même situation, en gros. Et quand on allumait la télé, la radio, il y avait un soutien presque national, international, on faisait la chasse à l'ennui, on s'occupait de nous, on nous donnait des activités à faire, cuisiner à la maison, danser, etc. Voilà. Donc il y avait une ambiance qui est aussi liée à une expérience globale, collective, et à un effet de surprise. Hein, et certains ont trouvé des effets bénéfiques au premier confinement en disant « je suis à la maison, ça y est, enfin je peux faire ce que je n'ai jamais su faire ». Aujourd'hui, la situation elle est incomparable avec aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, comme vous dites, l'expression est juste, on ne voit pas le bout du tunnel. Hein. C'est effectivement la situation, il y a une morosité qui s'est installée, il y a une longueur qui s'est installée, il y a des inégalités qui sont ressenties, des inégalités de traitement, il y a une information qui est donnée qui n'est pas une information, mais qui sont des informations, on ne sait plus qui croire, quoi croire. Pour autant, je crois que quand même, donc on est d'accord là-dessus, hein, que les situations sont en cela incomparables. Après, je pense que quand même, il y a quelque chose qui est important, c'est, donc encore une fois, oui pour le mal-être, hein, on est tout à fait d'accord, oui pour la difficulté étudiante. Vous avez tous vu les résultats, le taux de décrochage des étudiants, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il y a des effets très négatifs là-dessus. Pour autant, moi, ce que j'ai envie de vous dire, alors là, pour le coup, aux étudiants, et avec force, c'est d'aller chercher, et les feedbacks sont importants, d'aller chercher quels sont les ingrédients, les compétences, les attitudes, les manières de faire, les manières de penser qui ont changé, qui doivent constituer de nouveaux repères. Et c'est ça le problème, c'est que tant qu'on manque de feedback, et là aussi, en tant qu'enseignant, je me mets dans la boucle, je n'ai pas fait suffisamment de feedback avec mes étudiants sur le mode de « qu'avez-vous appris ?» Mais je suis resté toujours sur le mode « j'espère que vous allez bien, je vous soutiens, tout ça ». On a tous appris des choses, les repères ont changé, et ce qui fait violence aussi, c'est qu'on a des nouveaux repères, mais qu'on ne reconnaît pas comme des repères, parce qu'on est encore attaché à d'autres repères. Je pense que c'est important aussi de faire ce travail, de se dire « ok, Si je mets de côté 5 minutes tout ce qui ne va pas, j'ai construit de nouveaux repères. Ce que les étudiantes ont documenté dans l'étude, c'est le repérage de ces nouveaux repères, c'est aussi ce qui va nous permettre de traverser cette crise avec le sentiment, finalement, qu'on a appris quelque chose de ce qu'on a vécu. Et pour le moment, on a juste le vécu et l'émotion du vécu.
Oui, et c'est sûrement aussi le décalage qui est ressenti aujourd'hui entre le chercheur qui a cette capacité à prendre du recul et qui présente, vous savez que les travaux de recherche sont forcément en décalage avec le temps de l'enquête, puisqu'on publie ou on communique après avoir fait sa recherche, et jamais avant, ce qui est tout à fait logique. Là, il y a ce décalage temporel et donc il y a aussi un décalage avec le ressenti, puisque là on voit bien, ça apparaissait en filigrane dans ta présentation, il y a quand même tout l'aspect affectif, émotionnel, etc. qui ressort, et donc ce décalage avec, on va dire, une prise de distance nécessaire qui est complexe, et là une des étudiantes répond, quand nos ressentis sont très différents, c'est dur de voir ça, donc ça demande en effet une prise de recul. Et par rapport à la question qu'avez-vous appris, on a cette réponse, on n'a pas forcément l'impression d'avoir bien appris cette année. Les problèmes personnels se mêlent trop à la vie étudiantine, j'ai envie de redoubler mon M1 personnellement, le projet de mémoire me semble trop pressé, pas assez de temps de réflexion, ni accès à la BU, dans la conférence. Dominique Briand avait réagi à l'intervention de la conférence d'Hervé Le Cronier en précisant ces BU, ces lieux oubliés. Voilà, peut-être je te laisse réagir.
Oui, bientôt, bien sûr, mais bien évidemment, on est. Je crois que. Alors, merci de rappeler sur le temps de la recherche. Le temps de la recherche n'est pas le temps chronologique. Et d'ici 6 mois, 1 an, vous allez avoir des recherches sur la période aujourd'hui, 10 février, qui vont dire autre chose. Mais ce décalage, il faut l'enregistrer. Et puis en même temps, le travail du chercheur, c'est aussi de regarder un peu autrement une réalité. Parce que le travail de recherche, ce n'est pas de dire l'évidence, mais c'est d'essayer d'amener de l'intelligibilité autour de ce qu'on vit et de ce qui est ressenti comme des évidences. Je crois qu'aujourd'hui, on est et vous êtes dans le traumatisme encore. Et quand on dit j'ai envie de redoubler, tout ça, bien sûr qu'aujourd'hui, on ne va pas se réjouir de dire redoubler, on ne va pas se réjouir de dire j'ai raté un an, on ne va pas se réjouir de dire que socialement ma vie a été foutue en l'air, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans quelque chose qui est quotidien et donc qui est le reflet d'un traumatisme. Moi, ce qu'invite la recherche, et c'était aussi ça ce qui m'avait poussé à aller très tôt dans une recherche, parce que, je veux dire, on avait annoncé le confinement. Pour moi, très, très rapidement, j'avais envie de me dire, bon, là, on est en train de vivre un truc, excusez-moi l'expression, on est en train de vivre quelque chose, il ne faut pas que ça reste sous l'angle d'un traumatisme. Il faut que ça devienne une épreuve au sens de je produis du sens sur ce que j'ai vécu et je cherche à voir qu'est-ce que j'ai produit pour y faire face. Je crois que changer de regard sur ce qu'on vit, sur les traumatismes dans lequel on est aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre d'avancer plus rapidement la tête hors de l'eau. Et le redoublement qui est vécu à l'instant comme un échec, on le sait tous que à retardement, il n'est probablement plus un échec. Il a permis une prise de conscience, il a permis d'avancer, il m'a permis de me rendre compte de quelque chose dont je ne me suis pas aperçu, tout ça. Voilà. Mais encore une fois, chers étudiants, parce que je vois que c'est les étudiants qui réagissent, j'insiste lourdement, je ne suis pas en train de nier le mal-être étudiant.
Non, bien sûr, je pense que on espère pour tout le monde. Moi, j'ai justement insisté sur le fait que c'était forcément un point de vue de chercheur. Et puis là, évidemment, ce sont les étudiants et les étudiantes qui prennent la parole, mais je pense que les enseignants chercheurs ou les enseignants qui interviennent de manière générale dans les universités, dans les INSPE, sont aussi probablement partagent ce désarroi. Évidemment que voilà, mais on va pas s'arrêter sur ce désarroi enseignant non plus. Mais évidemment que ça a un impact fort sur le ressenti enseignant, le ressenti des formateurs. Alors, j'aimerais justement faire le lien avec une un autre aspect qui a été mentionné par, dans le fil de discussion, hein, ce sont les différences de maîtrise du numérique de certains enseignants qui rendent le distanciel parfois difficile et qui peut donner un sentiment d'isolement par manque d'accessibilité des enseignants. Et ça, c'est peut-être en réaction aussi avec la relation pédagogique que tu as évoquée, hein, qui a été réinterrogée, hein, et qui prenait d'autres dimensions. Mais peut-être que ça pose aussi d'autres soucis.
Oui, bien sûr. Alors, avant de répondre à ce point, alors pardon, j'ai un peu triché, j'ai enlevé mon diaporama, parce que ça, je vous lis en parallèle, ça me permet de sentir l'ambiance, hein, parce que c'est ça aussi ce qui nous manque aux enseignants, hein, c'est que nous, on ne sent pas l'ambiance de nos salles de classe, de nos salles de nos amphis, et tout ça. Donc, pardon, je me suis dit. Juste, alors, c'est intéressant, hein, quand vous dites, je me sens un automate, hein, ce que dit quelqu'un, là, Héloïse, hein, vous dites, là, j'ai le sentiment de subir et d'être un automate. Alors, oui, mais très clairement, quoi. D'abord, parce qu'on nous a privé de vie sociale, parce qu'on a considéré que la vie sociale était dangereuse. Hein. Donc là, il faut on peut adhérer, mais on peut résister aussi, voire on peut désadhérer pour mieux adhérer, quoi. Hein. Donc oui, aujourd'hui, le problème fondamental, c'est qu'on passe pour des automates. Mais le vivant humain, en tout cas, ne peut pas être un automate. Hein. C'est invivable et impossible d'être un automate. Et dans tous les cas, c'est invivable. Bon, je crois que votre expression là. Elle dit ça, c'est-à-dire aujourd'hui on est englué, quoi. On est littéralement englué. Et nos élèves, alors nos étudiants, si je prends la posture de formateur à l'INSPE, et nos élèves, si je prends la posture d'enseignant, sont eux aussi englués. Je crois que c'est aussi ça notre travail, de proposer des moments où on va, alors le mot il est affreux, je pense qu'il n'existe pas, il faut désengluer le tout, il faut remettre du débat, ce qu'on fait là exactement au moment où on se parle. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de débat, hein, de débat de normes, de débat de valeurs par rapport à la réalité qu'on vit. Et donc, mettre du débat, exactement ce qu'on fait, ça permet de désengluer et de quitter cette zone d'automate. Parce que même si Héloïse vous dit vous avez le sentiment d'être un automate, vous ne l'êtes pas. Et si vous vous prenez le temps de réfléchir sur vos nouveaux repères et vous dites sincèrement, tiens, qu'est-ce que j'ai appris de ça ? Je suis convaincu que vous allez trouver que vous avez appris quelque chose. Bon, je ferme la parenthèse et je reviens à la question, Élise, pardon de partir un petit peu sur ce que je viens de dire, mais oui, bien sûr, la réalité de l'enseignant va aussi impacter la réalité des étudiants sur la capacité de maîtrise de l'outil par l'enseignant lui-même. Là aussi, les écarts sont très nets et les enseignants, tout comme les étudiants, la distinction entre l'utilisation et l'usage, elle est très très nette. C'est-à-dire que on est beaucoup d'enseignants à savoir utiliser Internet, on n'est peut-être pas si nombreux à savoir faire usage d'Internet. Alors quand il s'agit de passer du point de vue personnel à la transposition, j'ai presque envie de dire didactique ou pédagogique, c'est une difficulté supplémentaire pour l'étudiant. Et ça, c'est très très net que les problèmes techniques et technopédagogiques, s'ils sont du côté de l'enseignant, parce que pour nous aussi c'est complètement nouveau, ils sont ressentis fois 100 par les étudiants. Donc ça, l'étude a très fortement montré l'impact que ça a eu sur la qualité des apprentissages. Et donc il y a effectivement sur les programmes enseignés, je pense qu'il faut accepter l'idée qu'il y a une partie du programme qui n'a pas été appris. Mais je vais vous dire que dans la vraie vie, il y a aussi une partie du programme qui n'est pas appris. Donc voilà, mais je ne suis pas en train de dire que de minimiser la chose.
Oui, j'aimerais également revenir sur un autre aspect, parce que là, on était côté enseignant, mais côté étudiant, dans ses propres enseignements et ses propres questionnaires, Isabelle Duchâtel confirme au sujet notamment des examens à distance, hein, qu'il pouvait y avoir en effet moins de stress avec des étudiants qui s'en sortent très bien d'un point de vue autonomie, mais que la vraie question, c'est probablement de retrouver ceux qui ne le font pas.
De retrouver, pardon ?
Ceux qui ne le font pas, c'est-à-dire ceux qui ne parviennent pas à trouver à construire cette autonomie, hein, qui était évoquée tout à l'heure.
Oui, bien sûr. Alors, la question de l'autonomie, la question motivationnelle, on sait bien, et pour les futurs enseignants concernés, on sait bien que promouvoir l'autonomie de l'apprenant, c'est une tâche qui est quand même extrêmement complexe, et elle est d'autant plus complexe qu'elle est aussi le reflet, alors je ne sais pas, d'un handicap socio-culturel. Moi, j'assume un peu plus facilement le terme par rapport à Stéphane Bonnery ce matin, mais on est bien d'accord là-dessus que ceux qui n'avaient pas déjà une autonomie forte bah, avec le confinement, eh bien, ils sont encore plus en difficulté que par le passé. Et c'est une des raisons qui pousse aussi l'université à réintroduire du présentiel, parce qu'on pense que la présence, hein, l'ambiance d'une salle de classe, l'ambiance d'une relation, l'ambiance que produit une communication non-verbale, elle peut susciter la motivation, elle peut être un levier sans pour autant faire le trajet qui est celui qui revient à l'apprenant. Mais bien évidemment, on va avoir, et dans les années à venir, ça va se confirmer, à réfléchir à comment on suscite cette motivation dans un contexte hybride, voire multimodal, quoi. Et je crois que ce questionnement qui est extrêmement délicat en temps normal, se renvoyer à la question du multimodal, il faut la lire en puissance 10.
Oui, avec la réaction immédiate, hein, par rapport à l'autonomie, une des étudiantes, hein, qui précise, ou je pense que c'est une étudiante, mais n'hésitez pas à me le préciser sinon, hein, malheureusement, même avec une autonomie forte à la base, nombreux sont ceux qui, malgré tout, décrochent.
C'est clair. Je crois que c'est la durée, c'est l'intensité de la durée. Hein. Si on était resté sur le premier confinement, en plus c'était le printemps et que Dieu sait que ça participe aussi, bien évidemment, on aurait tenu. Là aujourd'hui, c'est un, le problème de la durée, deux, c'est le problème de l'ambiance générale, et trois, il y a aussi quelque chose qui est très fort, c'est les effets du traitement médiatique, quoi, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie de passer une mauvaise journée, j'allume la radio, quoi, et la télé. Si j'ai envie de passer une journée un peu moins mauvaise, il faut que je me déconnecte. Donc tout ça, je veux dire, c'est systémique. Tout ça participe effectivement de la difficulté. Je crois qu'on a, c'est presque un conseil de bon père de famille. Je crois qu'aujourd'hui, il faut tenir et tenir bon. Hein. C'est à peu près tout ce qui nous reste.
Oui, et puis je pense que, enfin, ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que les étudiants et les étudiantes, hein, qui, moi je pense que la recherche et des journées comme celle-ci, Isabelle Duchâtel le précisait tout à l'heure, hein, ont aussi le mérite de déclencher, hein, les prises de parole, hein, d'être un lieu d'échange ici, hein, même si on ne revient pas forcément, hein, sur des aspects liés à une recherche qui précisément concernait un confinement antérieur. On sent bien là que les problématiques ont totalement été redistribués, rebalayés, etc. Là, on a même des étudiants qui précisent que même si on leur proposait de revenir éventuellement en demi-groupe, une demi-journée, ce ne serait pas suffisant et ça arriverait beaucoup trop tard. Il ne faut pas oublier que les étudiants et les étudiantes vivent deux phénomènes, l'absence de présentiel à l'université et le couvre-feu. Et ça change beaucoup de choses, hein, si on se repense évidemment aux élèves. On évoquait les élèves de maternelle, hein, qui ont été fortement impactés sur des aspects différents. Mais là, c'est la vie globale qui est totalement bouleversée, avec et la question notamment des espaces. Hein. Il y a une étudiante, hein, qui précisait que en fait, son espace d'apprentissage, ou en tout cas de formation, de cursus, était le même que son lieu de vie, hein, en fait. Hein. C'est-à-dire que toutes les frontières sont floues, et forcément que ça a un impact phénoménal, hein, sur le moral, le psychologique, le psychique, etc. Question d'espace, hein, je précise simplement, hein, c'est au cœur des enjeux, hein, de l'atelier qu'on co-anime cet après-midi, hein, et notamment des espaces scolaires, hein, qui ont été aussi fortement affectés.
Alors, ouais, c'est intéressant de vous lire, alors, si je peux prendre le relais, j'ai pu lire pendant… je suis tout à fait d'accord sur ce qu'il dit. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce matin, j'ai annoncé à mes étudiants, tout fier, qu'on allait reprendre une demi-journée à partir du mois de mars, le mercredi après-midi. Ils m'ont regardé avec des grands yeux, je disais, mais qu'est-ce qu'il dit ? Donc, ça rejoint votre point de vue. Alors, on voit bien qu'on arrive à la limite de l'institution. Ce n'est pas tant le présentiel ou le distanciel qui pose problème, même si ça participe au problème, c'est l'absence de vie sociale, quoi. Je ne suis pas sûr qu'en mettant une demi-journée à l'emploi du temps, on va à nouveau produire de la vie sociale, quoi. Je crois qu'on touche aussi à la limite de l'institution, à la limite du système aujourd'hui, et à la limite de ce qu'un système peut faire, hein. C'est-à-dire que quand je lis vos commentaires, effectivement, que voilà, je suis désolé, mais moi, j'arrive pas, même s'il faut revenir un petit peu, ça change pas. C'est normal, c'est-à-dire que ce qu'il nous nous faut retrouver, c'est les fonctions du social. Ce n'est pas tant du social lui-même. La fonction du social, c'est ce qui fait l'essence même de notre vie. Et c'est précisément ce qui est évalué comme dangereux aujourd'hui d'un point de vue sanitaire. Bon, alors, moi, je ne suis pas médecin, je n'y comprends rien, mais je crois qu'il faut prendre au sérieux ces affaires-là. Pour autant, c'est ces fonctions qu'on perd. Donc, je crois, et ça va être difficile, on n'arrivera pas de toute façon à produire à amener tout le monde à nous rejoindre sur notre point de vue. Je crois qu'il faut aller chercher ces nouveaux repères. Et je suis convaincu que les étudiants, même ceux en difficulté, vous avez construit de nouveaux repères. Et derrière ces nouveaux repères que vous avez construits, il y a quelque chose qui se passe. Il faut aller l'épingler, ce qui évite aussi d'aller un peu trop se laisser aspirer, parce que c'est le terme, aspirer par une ambiance qui va vers le rien ne va. Et je suis d'accord avec l'étudiante qui dit, moi, les enquêtes qu'on m'envoie, qui recensent est-ce que je vais bien, pas bien, c'est anxiogène à l'extrême. Je pense qu'il n'y a que les personnes de proximité qui peuvent s'occuper des étudiants qui ne vont pas bien, hein, je crois.
Oui. Alors, ça va être à nouveau très frustrant, hein, parce que tous ces échanges sont essentiels. Après, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le travers d'allonger les temps de visioconférence, même pour une journée aussi passionnante que celle-ci. Donc, dans la mesure où on reprend à 14h et qu'on a bien conscience que les pauses sont absolument nécessaires, je tenais à remercier à nouveau chaleureusement Denis. Conférence qu'il vous a proposée. Je tenais également à remercier Florian Huître, formateur à l'INSPE de Saint-Lô, parce qu'il m'a quand même beaucoup aidé pour essayer de tisser des liens pour la partie échange et le fait d'essayer de relayer au maximum vos remarques, vos expressions de vos réactions. Hein, parfois on sentait que c'était poignant. Hein, on a bien conscience, hein, de tous ces enjeux. Moi j'espère avoir essayé de prendre en compte, hein, le maximum. Hein. Je sais que Maëlle avait fait une remarque très, très précise, hein, par rapport à un moment, hein, de cours où elle soulignait, hein, justement une relation pédagogique qui n'allait pas du tout dans le sens, hein, de ce qui pouvait être présenté précédemment. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de témoignages. Le fil de discussion, hein, est enregistré lui aussi. Hein, il fera partie, hein, des traces, hein, de cette journée, et donc traces, hein, sur lesquelles pourront peut-être s'appuyer d'autres chercheurs. Hein. Et donc, je vous propose de conclure, hein, sur cette perspective, en sachant qu'évidemment, hein, dans l'immédiat, c'est surtout essayer de trouver, hein, des manières, hein, de rebondir, et en tout cas de prendre, hein, quand même, du positif, hein, dans les micro-moments, hein, d'une journée, hein, qu'il s'agisse d'un échange stimulant avec tel ou tel autre étudiant, d'un accompagnement. Isabelle Duchâtel, hein, parlait de la question justement de l'accompagnement, hein, repenser l'accompagnement, etc. C'est vrai que ça réinterroge énormément de choses. Je m'arrête là, je vous donne rendez-vous, en tout cas pour celles et ceux qui sont du côté de l'atelier qu'on co-animera. Je vous donne rendez-vous à 14h, hein, vous avez tous les liens de connexion, mais il y a beaucoup d'autres ateliers, hein, évidemment, donc vous rejoignez, hein, l'atelier dans lequel vous vous êtes inscrit, et sinon dans l'atelier, hein, que vous avez choisi par rapport à la page web. Voilà, un grand merci à toutes et à tous, hein, pour votre participation, pour toutes ces expressions. 14h pour Isabelle, hein, 14h pour l'atelier, hein, c'est de 14h à 17h, hein, l'atelier, et on vous proposera, hein, la manière dont on fonctionne. Ah, donc si vous nous rejoignez, non, je pensais donc à 16h, pas de souci, Isabelle, on sera ravis de vous accueillir à 16h.
Voilà, j'ai été déconnectée, désolée, au revoir tout le monde.
Au revoir Jean-Luc, à tout à l'heure.